Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, nous parlons aujourd'hui de l'impact de l'alcool sur la sexualité. Bon nombre des gens affirment que l'alcool a un effet stimulant sur la sexualité. Il suffit de consommer avec modération, prendre sa bière pour se sentir en forme pendant les relations sexuelles. Certains affirment que ça réveille le désir sexuel. En revanche, d'aucuns estiment que la consommation abusive de l'alcool peut donner lieu à des comportements sexuels incontrôlés et qui peuvent pousser les gens parfois à commettre le viol par exemple. Alors quel est vraiment, est-ce qu'il y a un impact, il y a un lien entre l'alcool et la sexualité? Jean Lumbala est sexologue, encore une fois bonjour.
Bonjour Jody Kachama.
Est-ce que c'est ça la première question, y a-t-il un lien entre l'alcool et la sexualité?
Bien sûr, il y a un lien, mais que j'appelle morbide. Donc c'est pas un lien bien, sur lequel on peut s'attarder positivement. Mmh. Donc c'est quelque chose de morbide, comme vous avez dit. Quand on examine les situations de viol, donc j'ai eu à travailler moi-même avec les violeurs. Dans la majorité des cas, si pas tous, il y avait le violeur avait bu, donc soit l'alcool ou alors avait consommé la drogue. Donc c'est quelque chose qui conduit à des comportements vraiment graves. Et donc c'est ça la conséquence de l'alcool sur le comportement sexuel.
Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que l'alcool a aussi un effet permet de créer l'excitation sexuelle, parce que certaines personnes pensent que pour mieux avoir les relations sexuelles, il faut avant prendre de l'alcool.
Oui. Mais disons que moi je vais séparer d'abord il y a d'une part l'alcool, il y a le consommateur. Et puis d'autre part, en troisième lieu, la sexualité. Donc l'alcool, tout d'abord, c'est un parmi les produits toxiques. On peut le classer parmi les calmants. Et donc ça peut paraître étonnant, parce que comme vous avez dit, ça paraît exciter le comportement, mais l'effet final, c'est de calmer. C'est comme un médicament anxiolytique. Donc c'est même soporifique. Donc ça conduit au sommeil. Donc ça ne peut pas être l'ami de la stimulation sexuelle, même si c'est le stimulant sexuel numéro un dans le monde. Par ailleurs, au niveau du consommateur, disons qu'on a étudié à plusieurs niveaux, par exemple au niveau physiologique, quand on analyse le cerveau de la personne dépendante, donc qui consomme régulièrement de l'alcool, on va voir qu'il y a le système limbique, donc c'est le siège des émotions dans le cerveau, qui est peu développé chez l'alcoolique. Donc quand la personne va se mettre à boire, elle va mieux gérer ses émotions et en particulier la peur. Donc c'est ça qui fait que l'alcool a ce côté libérateur. Donc chez le consommateur. Donc ça le libère de sa peur. Et alors au niveau psychologique et social, on a constaté chez les alcooliques une espèce de retrait de caractère, enfin de comportement plutôt social, sont des gens retirés, timides, finalement qui n'ont pas d'identité sexuelle sociale. Excusez-moi. Mm-hmm. Alors donc en buvant, ils vont acquérir un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, voilà, ils vont se sentir gays, libérés.
C'est comme à Kinshasa, presque chaque soir, après le travail, les gens se retrouvent dans les écalas.
Voilà.
Et ils prennent leur bière.
Oui, pour se laisser aller. Maintenant, quand on fait le lien avec la sexualité, mais on a étudié aussi physiologiquement, donc si on voit par exemple au niveau de la femme, comme vous avez dit, un verre d'alcool, oui, ça aura l'effet de l'exciter sexuellement. Enfin, une petite dose, donc on commence par une mesure d'alcool. On va voir chez la femme, par exemple, une lubrification vaginale qui va augmenter. Donc, c'est comme si elle aura plus d'excitation sexuelle quand elle a pris un verre. Par ailleurs, on va voir aussi le relâchement du vagin. Donc, parfois, des femmes qui souffrent de ce qu'on appelle, en termes scientifiques, la dyspareunie, mais qu'on appelle vulgairement le vaginisme. Donc, ce sont des femmes qui ont mal lors des rapports sexuels. Mmh. En buvant, les muscles se détendent. Donc, elles peuvent avoir mieux les rapports sexuels.
Oui. Grâce à l'alcool.
Grâce à l'alcool, mais à petite dose. Et chez l'homme, ce qu'on va voir, c'est que la petite dose d'alcool va permettre de retarder l'éjaculation. Donc, quand l'éjaculation est retardée, l'homme a l'impression de jouir un peu plus. Mais, comme je dis, à petite dose. Une fois qu'on passe à plus de 3 mesures d'alcool, donc 3 verres de bière ou 3 verres de petit whisky, c'est le contraire qui va se passer. Par exemple, chez l'homme, il va perdre l'érection. Donc autant l'éjaculation est retardée, mais finalement il va perdre l'érection, donc il va pas jouir. Donc c'est pas vraiment le résultat final n'est pas bon quand on prend trop d'alcool. Et chez la femme, Et donc, on a commencé avec une lubrification vaginale et vers 3 verres à peu près, c'est le contraire qui va se passer, c'est la sécheresse vaginale. Donc, toute cette lubrification va disparaître et elle va continuer à avoir le rapport sexuel, quitte à avoir mal. Et donc, après le rapport sexuel, on peut voir des déchirures du tissu vaginal, ainsi de suite. Donc, ça, c'est un peu le lien qu'on peut voir, l'étude scientifique qu'on a fait entre l'alcool et la sexualité.
Mmh. Voilà. Voilà, à Kinshasa, par exemple, ou au Congo, on voit souvent la publicité. Oui. Isa Mombombo, on vous montre que cette boisson, dès que tu prends ça, tu deviens très performant, tu deviens puissant sexuellement. Est-ce que tous ces messages qu'on fait passer derrière la publicité de certaines boissons, c'est un message vrai ou c'est tout simplement dans le but de vendre?
C'est un faux message, mais qui agit positivement. C'est-à-dire qu'il y a l'effet placebo dans l'alcool, surtout chez l'homme. Donc si vous prenez un homme à qui vous présentez un verre d'alcool, par exemple la vodka, comme ça ressemble à de l'eau, on peut mettre autre chose que la vodka, on dit à l'homme c'est de l'alcool, prends-le, et quand il prend, ça va vraiment le stimuler sexuellement. Donc c'est l'effet placebo pur.
C'est quoi l'effet placebo?
Placebo, c'est-à-dire qu'il croit. Donc c'est faux, c'est une invention dans sa tête, il imagine. C'est le cas par exemple de certains médicaments. On lui dit un médicament soigne plus parce qu'on croit en la capacité du médicament à nous guérir que l'effet réel scientifique. Et donc c'est ça qui se passe. Donc une fois qu'on va dire à l'homme, ça c'est de l'alcool, ça va te stimuler sexuellement, effectivement le comportement va être modifié et donc il sera stimulé. Et le contraire, on peut lui donner...
Donc tout est psychologique.
C'est psychologique. Donc on va lui dire, c'est pas de l'alcool, alors que c'est de l'alcool, il n'y aura pas de stimulation sexuelle chez lui.
Voilà. Et nous avons dit tout à l'heure que l'alcool, vous avez dit qu'il y a un lien morbide entre l'alcool et la sexualité. Oui. Pouvez-vous nous en dire encore plus?
Oui. Mais disons que ce qui se passe dans l'alcool, il y a ce qu'on appelle l'effet de tolérance. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai pris un verre d'alcool pour me sentir comme je voulais, le lendemain, il faudra un peu plus. Donc, je passerai à 2 verres, 3 verres, ainsi de suite. Parce que mon corps va commencer à exiger de quantités de plus en plus élevées d'alcool pour produire le même effet. Et donc, c'est ça qui va se passer dans la sexualité, en particulier. Et donc, par exemple, la plupart des dépendants que moi j'ai traités sont devenus alcooliques pour surmonter une difficulté sexuelle. Vous voyez, donc il prend l'alcool pour surmonter une difficulté sexuelle, mais il doit chaque fois augmenter la quantité consommée pour avoir l'effet désiré, et il finit dépendant, il finit alcoolique. Vous voyez, donc ça c'est un des côtés morbides. Et de l'autre côté, comme je disais, mais c'est le viol, tout simplement. Parce que la plupart des criminels sexuels, des délinquants sexuels, comme je disais, ils souffrent. Donc c'est des gens qu'on doit vraiment soigner, donc on va voir au niveau du système limbique, ils sont peureux, et alors donc ils sont timides, ils n'ont pas des rapports sexuels comme ils l'auraient voulu, alors ils se servent de
l'alcool.
Voilà. Et alors une fois qu'ils sont ivres, là c'est le relâchement total, parce que c'est vraiment le système limbique est réactivé à une vitesse incroyable. Donc c'est comme des robots, ils sont attirés que par ça, par dépasser leurs limites, et c'est comme ça qu'ils commettent le viol. Que ce soit avec des femmes, des enfants, avec tout ce qui bouge.
Quel est l'impact de l'alcool sur la sexualité? Le sujet vous intéresse, n'attendez pas les dernières minutes. C'est maintenant, on va commencer déjà à appeler maintenant au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Aujourd'hui, nous recevons Jean Lumbala, ou Lumbala, sexologue. Appelez déjà pour participer.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Un auditeur nous a écrit, Jean, pour poser cette question. Est-ce que si une personne a des rapports sexuels pendant qu'elle est ivre, l'enfant qui naîtra aura aussi des traces d'ivresse et sera un alcoolique, il aura l'ivresse dans les sangs?
Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est... disons, on peut voir des traces, on voit des traces génétiques, mais du fait d'être alcoolique, pas du fait de consommer l'alcool. Donc, on peut voir dans les familles comme ça, il y a une espèce de généalogie, avec un trait d'alcoolique qui va se présenter, mais parce qu'on a des prédispositions, mais parce que peut-être qu'on est aussi avec ce cerveau qui est à moitié abouti, mais il n'y aura pas de conséquences. Enfin, si on a consommé, non, pas sur l'enfant, mais si on est alcoolique, oui, l'enfant pourrait, enfin, est prédisposé à devenir alcoolique aussi. Enfin, une prédisposition, je dis bien.
Mais pour les gens, par exemple, qui connaissent une baisse des libido, de leur libido, est-ce que le fait de prendre l'alcool va encore les stimuler davantage?
Non, pas du tout. Parce que vous parlez tout à l'heure du désir, dans l'introduction. Il y a la différence à faire entre le désir et le plaisir. Le désir, c'est cet élan qui va nous habiter quand on regarde une femme. Ça monte, ça touche les sens. C'est ça, donc, qui est le plus important. Et c'est ça qui va nous conduire à solliciter peut-être une relation, un rapport sexuel, dans le but d'éprouver du plaisir. Vous voyez? Et alors, avec l'alcool, il n'y a pas le stade de désir, hein, parce que sans alcool, on a peur, on ne sait pas rentrer en relation. Une fois qu'on a pris l'alcool, on passe directement, on veut absolument le plaisir. Et alors, malheureusement...
Sans passer par le désir.
Sans passer par le désir. Et donc, comme je disais, un homme qui a bu beaucoup de verre va perdre son érection en cours de route. Donc finalement, il n'aura pas joui. Donc vous voyez, donc il y a ce sentiment-là qui va nous habiter, on va le faire, ou alors il va jouir, mais sans plaisir. Donc c'est une jouissance presque réflexe du fait de l'accumulation comme ça du sperme dans l'organisme et dans les canaux déférents. C'est ça qui va sortir, mais il n'aura pas joui. D'ailleurs, tous les violeurs que avec qui j'ai échangé après leur viol, ils disent qu'ils n'ont jamais joui. Et donc ils ne comprennent pas. Ils disent, pour un acte qui m'a même pas apporté du plaisir, je me retrouve en prison.
Voilà, nous avons deux auditeurs en ligne. Jean des Dieux nous appelle les Kikuites, et Albert Mwananga de Kananga. Jean des Dieux, on commence avec vous. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jody, bonjour sur notre invité.
Bonjour Jean des Dieux.
Oui, merci beaucoup pour l'émission, est très important. Je voulais poser des questions à notre invité et qu'il puisse nous décrire, il y a combien de sortes d'alcool, par exemple, qu'il puisse nous donner même des exemples de quels des alcools qui ont lié à la sexualité, parce que nous avons plusieurs sortes des alcools, parce qu'il y a des gens qui prennent des alcools sans pas tenir compte à ça, quand ils ont les effets de la sexualité, ils ne savent pas que cela est lié à l'alcool. Vous pouvez quand même nous citer quelques alcools qui ont lié au rapport aux sexualités. La deuxième préoccupation est de savoir, après avoir bu de l'alcool, parce que tous d'autres gens sont ivresses, quand il est dans un état d'ivresse, il fait des histoires où il est inconsciemment. Dans ces cas-là, qu'est-ce que nous pouvons faire à quelqu'un qui est dans un état d'ivresse, qui est en train de chercher à violer les jeunes filles?
Bien, merci. Albert, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachamé, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Merci. Voilà. Il y a certaines qui prennent de l'alcool déjà mélangé avec les médicaments traditionnels. Vous verrez que le mélange devient jaune. Alors, ils affirment que c'est des meilleurs stimulants sexuels. Est-ce que, comment l'invité peut nous affirmer aussi? Quel est le point de vue de la part de notre invité?
Vous parlez de médicaments traditionnels, il s'agit de quoi?
Oui, oui, vous verrez les gens, donc vous allez donc... Par exemple, payer de l'alcool, c'est déjà, il y a deux sortes. Il y a le mélange, l'alcool déjà mélangé avec le médicament traditionnel. C'est ce mélange-là qui devient tellement jaune. Et l'alcool vraiment qui est un peu blanc, donc il n'est pas encore mélangé avec quelque chose.
Et comment on appelle ce mélange-là à Kananga?
Voilà, le mélange-là est bon. Ils appellent toujours que l'alcool déjà mélangé avec le médicament traditionnel. Donc, il n'y a pas vraiment les noms vraiment concrets là-dessus. Donc, en observant seulement comme ça, donc vous verrez qu'il y a l'alcool déjà mélangé avec le médicament traditionnel. Il y a même des petits sticks là qui se trouvent là et des racines, peut-être comme ça.
Des racines. Alors, et les gens disent quoi? Quand vous prenez ça, vous devenez performant.
Voilà, ils disent que vraiment... Quand vous prenez ça, c'est 24 sur 24, vraiment. Donc, il n'y a pas quelque chose de dire que non, j'ai abandonné, quoi.
D'accord. Une autre question?
Non. Oui, une autre question. Est-ce que notre invité peut nous dire, est-ce que c'est conseillé de prendre l'alcool comme un stimulant sexuel ou bien c'est déconseillé? C'est ça? C'est que je voudrais vraiment poser à notre invité.
D'accord, Jean Lumbala.
Oui. Alors, je vais repartir par Albert, ça sera plus facile. Oui. Prendre l'alcool comme stimulant sexuel, ben non, je l'ai dit, hein. Donc c'est l'ennemi de la sexualité. Au contraire, ça va vous endormir que toute autre chose. Alors, quant au mélange, en fait, ça c'est de manière générale, hein, sur le stimulant sexuel. Donc, un stimulant sexuel va agir au niveau de la réponse sexuelle. Donc, c'est-à-dire que l'organisme va réagir vite, on va avoir une érection, mais c'est au niveau purement mécanique. Donc, il n'y a rien qui se fait au niveau du plaisir chez l'homme. Donc, comme je dis, on peut augmenter. Quand on va observer l'activité du cerveau, la zone de plaisir n'agit pas du tout quand on est sous l'effet d'un stimulant sexuel. Donc, si vous voulez, on est un sportif dopé. Donc, alors, quel est le Alors, est-ce qu'on est un bon sportif quand on est dopé? Je ne le pense pas. Donc c'est la même chose avec tous ces mélanges qu'on peut prendre. Que ce soit le cas chez les adolescents qui veulent impressionner leurs partenaires,
leurs copines, ils vont prendre des stimulants.
Voilà, dans le cadre de ce jeu-là, peut-être, mais pour dire que ça va aider au niveau de la qualité relationnelle, j'imagine chez les adultes, non, pas du tout, ça n'apporte rien de bien.
Alors Jean, vous avez rédigé un livre intitulé « La vie sexuelle des Congolais ». Et dans ces bouquins, vous parlez également de l'alcool, du lien. Qu'est-ce que vous avez constaté en général? La conception des Congolais, la conception qu'ils ont sur les liens entre l'alcool et la sexualité?
Mais oui, effectivement, c'est un ouvrage que j'ai pris vraiment du plaisir à écrire, mais grâce aux auditeurs de Radio Capi, hein, donc je leur rends hommage et je leur dédie d'ailleurs cet ouvrage. J'ai commencé par ce chapitre, donc le premier chapitre, ça part de l'alcool. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est consommé de manière outrancière dans notre pays et de manière générale en Afrique. Mmh. Et donc, il y a toutes ces idées, toutes ces conceptions.
Que ce soit à l'Est et à l'Ouest, les gens consomment beaucoup d'alcool.
Voilà,
hein.
Oui, tout le temps. Donc, on est toujours attiré par ce côté festif que l'alcool peut apporter. Mais bon, comme je disais, hein, c'est la dépendance est là. On n'est pas alcoolique parce qu'on est ivre. Hein, donc pour répondre un petit peu, pour faire le lien avec la question de Jean de Dieu, on est alcoolique parce qu'on a ce besoin de consommer tous les jours. Hein, donc c'est la dépendance qui est en lieu, pas la quantité. Hein, parce que comme on parlait aussi des doses, non. C'est pas parce qu'on prend un casier de bière, quelqu'un qui prend un casier de bière par jour, et un autre qui prend 2-3 verres, ils sont tous les deux dépendants pour moi. Il n'y a pas de différence à faire. Et donc il y a trop de dépendants alcooliques chez nous, hein, parce qu'on va voir les bars, donc les gens...
Les terrasses, c'est plein.
Voilà, oui.
Donc, chaque soir.
Voilà. Même si l'effet au niveau du comportement ne se voit pas, mais dans le corps, le mal est fait. Hein, donc il y a la comme je disais l'effet sur de tolérance, il y a le corps qui s'abîme, hein, parce que je disais chez l'homme il va finir impuissant, hein, donc à force de prendre,
l'alcool peut conduire à l'impuissance sexuelle.
Oui, ça conduit à l'impuissance. Pourquoi? Parce que dans l'alcool, parce qu'on parlait des alcools forts et faibles, quel que soit le dosage, il y a beaucoup de matière grasse dans l'alcool, donc ce qui fait que ce gras là c'est la même quantité qu'il y a dans la cigarette, dans la nicotine, va se déposer au niveau des vaisseaux sanguins. Donc les vaisseaux vont finir par se boucher, ce qui fait que le sang sera moins irrigué et donc l'impuissance va s'installer directement chez la personne alcoolique. Et donc là, c'est beaucoup plus grave parce qu'il faudrait soit intervenir. Bon, ça, je ne sais pas si chez nous on est capable de cette prouesse.
Mais ailleurs, en Belgique,
on peut faire des interventions comme ça pour éliminer tous ces déchets de graisse qui se posent au niveau des vaisseaux. Et alors ça doit être fait chez les jeunes. Parce que bon, avec l'âge, c'est un peu plus compliqué chez les personnes adultes. Souvent, d'ailleurs, quand on fait cette intervention, ça conduit encore plus à l'impuissance. Donc, on va soigner l'organisme, mais le mal va rester. Et alors, on va proposer d'autres moyens comme des prothèses sexuelles et tout ça. Mais le stimulant n'agira plus.
Kaboué nous appelle de Kamina, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Kaboué.
Moi, c'est Séphas Kaboué, dans la province de précisément à Kamina.
Oui.
Oui, ma question est de savoir les conséquences immédiates et tardives de l'alcool sur la sexualité. Et ma deuxième préoccupation est que l'invité puisse nous expliquer le cycle de dépendance de la toxicomanie ou que nous puissions retenir quelque chose là-dessus. Je vois qu'il nous parle de la dépendance, mais j'aimerais qu'il puisse nous donner le cycle de cette dépendance.
Voilà, merci Kaboué. Cycle de la dépendance. Siloué nous appelle de Kisangani, bonjour. Siloué, vous êtes à Kisangani, bonjour. Voilà, il n'est plus en ligne, il va peut-être nous rappeler. Jean, vous avez la parole.
Oui, mais pour répondre à Kaboué, bon, les conséquences, je l'ai dit, je viens de le dire exactement là. Donc chez l'homme, ça va conduire à l'impuissance sexuelle, ça c'est, on peut pas y échapper. Il y aura moins de désir sexuel aussi, enfin moins de désir parce qu'on n'a pas, on saute un peu de cycle, on brûle le stade du désir pour passer directement au plaisir. Et puis je disais, bon, la dépendance, donc on finit alcoolique. Hein. Donc je l'ai dit dans l'introduction de ce chapitre, dans le livre, je dis, peu de gens ont conscience que la plupart des alcooliques le sont devenus pour surmonter une difficulté sexuelle. Donc finalement, on part pour espérer améliorer sa sexualité, en finit alcoolique. Hein, d'ailleurs, dans le livre, je cite quelques études de cas comme ça. Donc ça, ce sont vraiment les conséquences chez l'homme. Et comme je disais chez la femme, Elle voudra soigner son problème de vaginisme, donc des muscles qui sont toujours tendus. Donc en prenant l'alcool, elle se sent un peu plus détendue, elle a des rapports sexuels. Mais comme je disais, les rapports sexuels finissent par être douloureux sans qu'on s'en rende compte. Et donc en fin de compte, elle peut se retrouver avec des déchirures, avec des blessures. Et là aussi, il n'y a pas vraiment de désir. Donc pour moi, l'alcool tue le désir sexuel, que ce soit autant chez l'homme que chez la femme.
Voilà, vous avez dit, il tue les désirs, mais il procure le plaisir. Parce que tout de suite, on cherche le plaisir sans passer par le désir.
Oui, mais un plaisir sans désir, pour moi, c'est pas du plaisir.
C'est pas du plaisir.
C'est pas du vrai plaisir, voilà.
Nous avons un autre auditeur de Bounia, et il s'appelle Jean, voilà, Jean Bosco. Jean, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre question?
Bon, j'ai deux petites questions. La première question consiste à savoir, j'ai comme impression que l'invité s'est contredit. Dans quel sens? Au début, quand on suivait l'émission, il y avait dit que l'alcool donne la pression sexuelle, c'est-à-dire l'excitation sexuelle. Mais arrivé presque à la fin, ici, il vient de dire que l'excès de l'alcoolisme conduit aussi à l'impuissance sexuelle. Je ne parviens pas à comprendre les deux choses qu'il vient de dire. Et puis, ma deuxième préoccupation est de savoir si un homme arrive à grossir une femme à son état d'ivresse, quel sera l'état de cette affaire qui naîtra? Je crois que ce sont les deux préoccupations que j'avais.
Bien, merci Jean Bosco. Jean,
oui. Voilà. Mais Jean Bosco, oui, je comprends la confusion que vous, enfin, dans laquelle vous vous retrouvez. Donc j'ai dit, il y a l'excitation à petite dose. Donc quand on commence à prendre une mesure, donc c'est une mesure d'alcool. Alors pour expliquer, ça c'est aussi en lien avec la différence entre alcool. On parle de mesure d'alcool, c'est plus facile à comprendre que de parler d'un verre. Une mesure d'alcool, c'est un verre de bière, donc à peu près 25 centilitres de bière. Et d'alcool fort, comme le whisky, c'est à peu près 2 centilitres. Donc c'est 10 fois moins, vous voyez. Donc ça c'est une mesure d'alcool.
Oui.
Donc quand on a pris à peu près 2 centilitres de whisky ou 25 centilitres de bière, on aura cet état d'excitation-là au départ. Parce que je dis, ça va agir au niveau de casser la barrière, de la timidité, du retrait et tout ça, et de créer cette excitation-là avec la lubrification vaginale chez la femme et le retardement de l'éjaculation chez l'homme.
Chez l'homme.
Voilà, donc ça,
dans
c'est
l'alcool, dans, pris à petite dose.
Petite dose, donc à peu près à une mesure. Mais quand on dépasse les 3 mesures d'alcool, donc qu'on soit ivre ou pas, parce que je sais que beaucoup de gens pensent qu'on est... C'est parce qu'on est ivre qu'on est sous l'effet d'alcool. Non, on est sous l'effet d'alcool, mais cela se manifeste pas forcément sous forme d'ivresse. Donc on peut rester droit, lucide, mais l'alcool agit quand même dans l'organisme. Mmh. Donc à partir de 3 mesures, c'est là que je dis, on va perdre l'érection chez l'homme, et chez la femme, il y aura la sécheresse vaginale. Donc on passe à une mesure, à la lubrification vaginale, à partir de 3 mesures, c'est le contraire qui se produit. Donc voilà, c'est pour être clair, et j'espère
donc
que
il n'y a pas de confusion parce qu'il
pas du tout.
Il pensait que vous dites que l'alcool cause l'excitation sexuelle et à la fin ça conduit à l'impuissance et alors, il comprenait pas.
Voilà,
c'est que c'est passé à ce moment-là. Alors il dit quelqu'un, un homme ivre qui engrosse une femme, est-ce que l'enfant naîtra
normal,
des traces d'ivresse
normal, l'enfant normal. Sera normal sans aucune trace de enfin il n'y aura rien sur l'enfant.
D'accord. Bernard nous appelle des Manono dans la province du Katanga. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour,
Charles. On vous écoute, Bernard.
Oui, moi, je voudrais demander à l'invité si tu peux donner les conseils à cette fois pour avoir la force. Elle commence à circuler dans ce cours de route et si déjà existe, que tu peux même te cacher.
Non, on n'entend pas très bien, Bernard. Veuillez vous déplacer, bouger un tout petit peu. Peut-être que la communication va s'améliorer. C'est fait,
C'est fait.
Non, désolé, on vous entend pas très bien, Bernard.
Oui, ça va, merci.
Ouais, désolé, veuillez peut-être utiliser notre numéro pour nous appeler. On retient, Jean, que l'alcool pris à petite dose peut créer l'excitation sexuelle, mais dès qu'on dépasse en 3 mesures, pas 3 verres, à ce moment-là, ça détruit même l'excitation. Quoi.
Tout à fait. Parce que alors, c'est donc pour répondre à la question de Caboué, pour parler de cycle de dépendance.
Voilà,
c'est à partir de là. Voilà. Donc, pour dire, le point de départ, c'est là, quand on est à 3 mesures d'alcool. Parce que quand on a pris 3 mesures d'alcool, en fait, l'homme ne comprend pas qu'il ait perdu l'érection. Donc il va être dans ce qu'on appelle en sexologie le spleen. Donc il comprend pas, il dit mais pourtant au départ j'étais excité, comment ça se fait que je me retrouve à perdre mon érection? Et la femme de sentir la même chose, mais j'étais excité, hein, je mouillais plus et tout d'un coup je perds. Qu'est-ce qui se passe? Donc la prochaine fois on va passer à 4 verres, hein, au lieu de 3 et ainsi de suite. Donc le cycle de dépendance commence à ce moment-là. À partir du moment où on s'est rendu compte que on n'a pas été, enfin l'effet désiré ne s'est pas produit. Hein, donc on a échoué dans sa
Alors
quête.
Alors on augmente la dose.
On augmente la dose pour ressentir le même effet, mais l'effet ne reviendra plus jamais parce que la prochaine fois, il commencera pas par un verre, ça sera tout de suite la déferlante, hein. Donc il va prendre directement une grande quantité et donc il va à nouveau sauter cet état d'excitation pour se retrouver à nouveau dans voilà. Le spleen coïtal,
oui.
C'est un terme barbare, mais oui. Qui décrit le début de ce cycle de dépendance.
Et Kaboué dit, quelles sont les conséquences immédiates et à la longue de la consommation de l'alcool?
Mais sur la sexualité, voilà.
C'est vraiment ça.
Comme je disais, on va se retrouver avec des troubles sexuels, mais bon, comme je parlais de l'impuissance, et qui est un des troubles les plus compliqués à partir du moment où ça va affecter l'organisme, hein, parce que l'impuissance peut être psychologique. Là, on peut y remédier. Mais une fois qu'on est arrivé avec les vaisseaux sanguins qui sont bouchés, qui sont, comme je disais, il n'y a pas moyen d'intervenir dans notre pays, à moins de prendre des cholestérol.
Oui.
Donc ça peut-être agir au niveau des vaisseaux sanguins pour les dilater un peu plus et permettre une meilleure vascularisation et donc retrouver une érection normale. Oui.
Donc on peut dire que le message que les brassicoles font passer à travers de la publicité pour montrer aux gens que quand vous prenez cette bière, vous serez très performant sexuellement, c'est un faux message.
Mais je vais quand même me mettre du côté des sociétés brassicoles parce que bon, c'est dans ce cadre-là que j'ai été contacté. Donc là, c'est pas la faute aux sociétés brassicoles, mais aux publicistes. Donc ce sont les publicistes qui trouvent ces messages-là, qui les lancent. Parce que les sociétés brassicoles, bon, une des plus grandes de notre pays, a une fondation. Et alors cette fondation-là, par exemple, travaille avec un alcoologue, hein, donc un brillant médecin que je connais, donc qui est là, par exemple, pour le personnel de la maison. Donc une fois qu'une personne souffre de dépendance et d'alcoolisme, elle est prise en charge. Donc les sociétés brassicoles ont ce souci-là de dire aux personnes buvez avec modération. Mais le problème, c'est nous-mêmes qui ne savons pas nous mettre les limites. Donc je vais pas tout de suite condamner les sociétés, hein. Donc je vais dire, c'est plutôt à nous d'apprendre à boire avec modération, à boire avec plaisir.
Mais les messages qui passent à la télé, ce sont ces sociétés qui fabriquent le message.
Non, les publicistes, hein.
Les publicistes.
Les publicistes, voilà, hein. Donc c'est eux qui veulent montrer, hein, jouer un peu sur l'effet de mode de la société. Et surtout, hein, vous allez bien entendre, ce sont des messages qui captent notre attention, hein, comme la turbo, hein. Pour ne pas citer les marques.
Et ça, mon bonbon.
Voilà. Donc, les gens vont imaginer, et quand vous voyez les images, on voit un homme robuste, musclé.
On pense que, voilà, agit sur la sexualité.
Oui, oui, oui. Mais non, pas du tout. Parce qu'au niveau du produit lui-même, l'alcool est le même. Hein, pour répondre aussi à ce qu'on posait comme question par rapport aux sortes d'alcool, l'effet est le même, que ce soit la bière brune, blanche, whisky, ou des alcools mélangés, des cocktails, l'effet sur l'organisme est le même.
Archange nous appelle des Kikuit. Bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Archange.
Oui, j'ai voulu juste un peu pour compléter l'invité, comme il a dit que tout dépend de la moralité de celui qui prend l'alcool, puisqu'on a parfois des conceptions un peu négatives sur l'alcoolisme et la sexualité. Tu vois, c'est lorsqu'on prend de l'alcool et directement lorsqu'on a cette envie-là, ou bien lorsqu'on le prend et on pense qu'après avoir le prendre, j'aurai à exercer un effet sexuel, que nous avons directement les excitations. Donc c'est vraiment relatif à la conception de tout un chacun. Parce que je voulais dire que nous avons parfois constaté que lorsque vous prenez de l'alcool, et si vous vous sentez vraiment que non, à l'instant je suis, donc, ou bien je suis pas prêt à faire de la sexualité, cela n'a aucun incident et cela n'a aucun effet. Et par contre, il y a des gens qui se sont dit, qui se sont donné comme principe, après avoir pris de l'alcool, ils doivent passer par l'alcoolisme. Et souvent, lorsque vous fréquentez des terrasses, vous fréquentez aussi le bar, vous trouvez qu'il y a des filles qui sont là en train d'exhiber leur nudité, et vous aussi, lorsque vous êtes là en train de prendre de l'alcool, vous laissez séduire et vous le serez un peu manipulé par cela. Je voudrais un peu pour bien expliquer, dire que cela dépend tout à fait de la moralité de tout un chacun. Donc, la moralité de celui qui prend l'alcool. Lorsque vous êtes bien éduqué, je crois pas que cela peut vous conduire à faire des actes sexuels. Je voudrais aussi poser une question à l'invité, si vous voulez, comme il est aussi sexologue.
Oui.
Je suis l'invité. Est-ce qu'il y a des effets qui sont un peu négatifs après avoir eu des envies sexuelles? Bien, vous êtes excité, mais vous ne passez pas obligatoirement par des rapports sexuels. Vous ne posez pas des actes sexuels, mais bien que vous êtes excité. Est-ce qu'il y a des effets négatifs qui viennent par après ou comment?
D'accord, merci. Archange Kikuit, alors il dit ça dépend de la moralité de tout un chacun. Mais le fait que quelqu'un se retrouve dans un bistrot ou dans une boîte des nuits, il prend sa bière, il y a des filles des joies à côté qui sont habillées de manière à l'exciter. Donc on peut dire que c'est un cocktail pour réveiller les désirs sexuels.
Voilà.
Et la bière et la fille des joies.
Voilà, il a vraiment raison. Là, je pense que Archange a passé, si c'est le message qu'on peut retenir de cette émission, c'est bien celui-là.
Oui.
Ah, donc c'est un cocktail d'excitation, évidemment. Hein, donc c'est tout un contexte. C'est pour ça que je disais, l'alcool agit vraiment à un effet placebo. Donc c'est vraiment au niveau de la tête que cela se passe, pas réellement au niveau du corps. Donc effectivement, quand on va se retrouver un peu excité avec une fille légèrement habillée, avec ce monde de luxure et finalement on va succomber. Hein. Donc et alors on est piégé parce que ce n'est que l'apparence. Mmh. Hein, parce que bon, je ne pense pas que les serveuses soient des vendeuses de travailleuses de sexe. Non, mais elles doivent s'habiller comme ça de manière
légère.
Voilà. Donc c'est tout un leurre qui est là, qui est mis et qui fait que bon, la personne se fait piéger. Donc si elle n'a pas une grande moralité, elle se fait piéger et elle se retrouve dans des situations incontrôlables. Donc effectivement, Archange a bien raison de soulever cela.
Ouais.
Mais quant à la question qu'il pose du fait d'être excité
après
passer
d'avoir
à l'acte.
Une bière et vous ne passez pas à l'acte.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des conséquences?
Non, il n'y a pas de conséquences. Si ce n'est bon, on peut avoir peut-être le phénomène de rêve érotique et alors avoir des pollutions nocturnes. Donc c'est-à-dire que cette excitation reste, on dort avec toutes ces images dans la tête, on peut se retrouver alors à mouiller son lit, hein, donc à éjaculer pendant la nuit. Mmh. Et je tiens à préciser, parce que j'entends, enfin je lis dans mon livre, on parle de femmes de nuit. Non, c'est faux, c'est un phénomène purement scientifique. Donc c'est le réflexe, hein, les canaux déférents vont se relâcher, le sperme va sortir, et donc on va être soulagé naturellement. Donc j'ai envie de dire, l'équilibre est là entre l'accumulation et la libération naturelle.
Donc le corps lui-même va se charger de créer l'équilibre.
L'homéostasie, tout à fait. Ouais. Il y a l'homéostasie qui se passe. Alors bon, il y a des gens qui peuvent alors avoir recours à la masturbation ou des choses comme ça, ou pour se soulager. Hein, donc voilà. Donc il y a rien, il y a aucune conséquence négative par rapport à ça.
Alors Jean, La vie sexuelle des Congolais, c'est un ouvrage que vous avez rédigé partir grâce aux échanges qu'on a eu avec les auditeurs sur les antennes des Radio Capi, ce qui est très intéressant. Oui. Alors les auditeurs qui sont intéressés, comment peuvent-ils se procurer cet ouvrage?
L'ouvrage est sorti depuis fin décembre, donc ils peuvent il est en vente uniquement à Kinshasa. Donc pour le moment, on se contente de Kinshasa, à l'agence de tourisme Jumbo, donc qui est sur l'avenue Équateur. Sinon, il y a la page Facebook du livre. Donc la page Facebook s'appelle aussi La vie sexuelle des Congolais, où on peut avoir, il y a des forums d'échange ou des personnes qui ont déjà lu. Enfin, c'est très intéressant, c'est très riche en informations. Mmh. Et alors, sinon, j'ai un profil Facebook, donc Lumba l'agent, on va me retrouver.
Un numéro de téléphone.
C'est le 082 07 03 960.
082 07 03 960. Comme ça, ceux qui veulent peut-être échanger avec vous après l'émission pourront avoir cette occasion de le faire. Jean Lumbala, sexologue, merci.
Merci, Jody Kachama. Oh, Capi.